à présent, nous passons à la thématique art et cognition, qui est différente de la précédente, au sens où là, et c'est des choses qu'on a commencé à aborder hier, notamment avec la communication de Jean-Marie Schaeffer, il s'agit de la façon dont les arts contribuent au cadrage, à la structuration de la perception du monde. Voilà. Et alors, avant de passer la parole à nos intervenants, le temps que tout le monde s'assied, je voudrais rappeler qu'à l'issue de ce colloque ce soir, il y a un concert à Reed Hall qui est dans la continuité qui a été pensée en lien avec ce colloque, qui est fait par les étudiants du Master Musique de l'EHESS, qui sont des étudiants professionnels et qui ont conçu pour vous un concert dont l'entrée est libre et vous avez le programme ici. Et je remercie ceux qui ont organisé ce concert, donc Karine Lebaï a organisé avec Violetta. Violetta. Son nom. Bon, c'est Violetta. Voilà. Bien, alors, je vais présenter. Donc, cette table, il y a trois intervenants, il y a Jérôme Dokic, Denis Laborde et Claude Calame. Donc, et on va avoir de nouveau pas mal de littérature, mais aussi la musique. Donc je présente d'abord Jérôme Dokic, qui est directeur d'études à l'École des hautes études, qui est philosophe, qui est auteur de plusieurs ouvrages. Son dernier, c'est « Qu'est-ce que la perception ?», paru chez Vrin en 2004. Et donc il va nous parler de narration linguistique et mentale, perspectives croisées.
Merci Gisèle. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Voilà. Donc je projette des diapositives, je m'en excuse un peu, c'est une habitude de peut-être ma discipline, en tout cas ma sous-discipline, parce qu'il y aura très peu d'images, à vrai dire, donc uniquement des propositions précisément, et malheureusement des propositions dont certaines sont fausses. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la préface. Bon. Donc je voulais m'intéresser ici, et puis, avec, disons, un intérêt porté aussi aux questions de méthodologie vers la fin, à la question de savoir s'il peut exister des narrations mentales, et pas seulement des narrations linguistiques. Alors, je vais expliquer de quoi il s'agit. Tout d'abord, bon, je parlerai de représentation narrative, hein, sans offrir de définition, parce qu'il n'y a pas de consensus sur cette question. On a eu une session hier matin sur la question du récit et des conditions dans lesquelles on peut parler d'un récit. Mais je pense que beaucoup sont d'accord pour dire que certaines représentations sont narratives ou présentent un certain degré de narrativité. Ça dépend si on conçoit la narration comme une catégorie ou plutôt la narrativité comme une propriété graduelle, mais je ne vais pas du tout parler de cette question ici. Et comme ça a été dit aussi, ça a été rappelé hier matin, la narrativité est caractérisée typiquement soit par référence à ce qu'on peut appeler des propriétés globales, c'est-à-dire des propriétés qui concernent des séries de représentations, des ensembles articulés de représentations, par exemple la cohérence du récit, la clôture causale, par exemple des événements racontés, l'unité thématique et ainsi de suite. À nouveau, je ne ferai aucune contribution à cette question épineuse de savoir s'il existe des conditions nécessaires et suffisantes, probablement pas d'ailleurs, pour que une chaîne de représentation puisse être dite à bon droit narrative. Je vais m'intéresser ici plutôt à des propriétés que j'appelle locales de la narrativité. C'est des propriétés qui ont trait, disons, au point de vue ou à la perspective qu'une narration introduit, et point de vue, perspective, au pluriel, comme on le verra d'ailleurs. Donc il y a un ensemble de propriétés qui peuvent également caractériser, ou qui même, selon moi, caractérisent nécessairement toute narration. Donc là, on est plus proche d'une condition nécessaire, hein, l'introduction d'un point de vue ou d'une perspective, en un sens que je vais essayer de développer. Alors, encore une fois, je ne fais pas de contribution à la narratologie ou à la théorie de la narration. Comme vous le savez, il y a une French connection ici, et même une EHESS connection, puisque, évidemment, c'est un thème qui a été développé de manière extrêmement profonde et divergente aussi, hein, par des acteurs de l'école des hautes études, mais aussi évidemment Ricoeur en dehors de l'HSS et ainsi de suite. Donc, ce qui m'intéresse ici, donc, c'est de manière très générale deux questions. Une question, on va dire, qui concerne l'extension du concept de narrativité. Est-ce que c'est un concept qu'on peut appliquer à bon droit à des représentations non linguistiques, ou est-ce qu'au contraire, il faut réserver ce concept à des représentations linguistiques? Et puis, il y a une question de priorité, c'est-à-dire si on considère qu'il y a des représentations narratives non linguistiques, que faut-il penser des relations de dépendance ou de priorité entre ces deux types de narration? Est-ce que les narrations linguistiques sont prioritaires en un certain sens sur les narrations non linguistiques, ou est-ce que les narrations non linguistiques sont des narrations parce qu'elles héritent de certaines propriétés qui reviennent en propre à des représentations linguistiques, par exemple, etc. Là, je fais juste un petit détour semi-technique. Quand on parle de représentation linguistique, d'abord, il faut parler du véhicule de la représentation, si vous voulez, du médium, du milieu de la représentation. Et en général, on considère qu'une représentation a un véhicule linguistique quand elle a une certaine décomposition canonique, comme on dit, quand on peut la séparer en constituants, des constituants qu'on peut réutiliser dans d'autres représentations, selon certains principes, dont le principe de compositionnalité. Encore une fois, c'est en première approximation, mais on peut dire qu'une représentation a un véhicule linguistique quand elle satisfait à ces principes. Et par contraste, certaines représentations ont un véhicule qui n'est pas linguistique, parce que justement, ce véhicule n'obéit pas, ou cette représentation n'obéit pas au principe comme le principe de compositionnalité, mais par exemple, ont un véhicule qui est iconique, par exemple. Et là encore, la question de savoir comment définir ces deux types de véhicules est une question importante. Là, je n'ai pas le temps de faire le point sur cette question, mais il y a des différences qui sont relativement évidentes, me semble-t-il. Par exemple, si on prend une image, c'est une représentation, elle n'a pas un véhicule linguistique ou symbolique, si vous voulez. Hein, je parle de véhicule linguistique, on peut parler de véhicule symbolique de manière plus générale. Une image n'a pas de décomposition canonique. Par exemple, les parties d'une image d'un carré rouge sont des images de parties du carré rouge. Or, cette description très simple de la manière dont fonctionne une image ne s'applique pas au symbole, linguistique. Ou les images n'ont pas de sujet unique, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de différences entre les représentations dont le véhicule est linguistique et les représentations dont le véhicule est iconique. Petite parenthèse purement philosophique, ces distinctions, pour moi, ne préjugent pas de la question du contenu, de savoir quel contenu ont les représentations dont le véhicule est linguistique. C'est un contenu conceptuel, probablement, hein, parce qu'un véhicule linguistique véhicule un contenu conceptuel. Mais un véhicule iconique, pour moi, peut aussi véhiculer un contenu conceptuel. Donc la question du contenu conceptuel, non conceptuel, c'est une question qui est, à mon avis, transversale par rapport à ce qui nous intéresse ici. Donc, de manière extrêmement grossière, c'est très grossier, mais en fait, cette taxinomie est très simple, n'est pas philosophiquement innocente, mais bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, vous avez des représentations dont le véhicule est linguistique. Certaines d'entre elles sont des représentations, on va dire, publiques, hein, des événements observables par tous. Ce sont les énoncés, que ce soit des énonciations, enfin des énoncés qui seraient les produits d'une énonciation, donc orale, ou bien des énoncés écrits. Mais des représentations traditionnellement qualifiées de mentales peuvent aussi avoir un véhicule linguistique. C'est par exemple ce que Bertrand Russell appelait les attitudes propositionnelles, ce qui sont des pensées conceptuelles, des croyances, peut-être certains désirs, ont un contenu propositionnel, enfin une structure propositionnelle, et donc, dans ma terminologie, ont un véhicule linguistique. Donc ce n'est pas seulement les énoncés qui ont un véhicule linguistique, mais éventuellement des représentations, si vous voulez, internes, même si je n'aime pas tellement le terme d'interne. De même pour les véhicules iconiques, les représentations... Un véhicule iconique peuvent être des images physiques, mais aussi des images mentales. Évidemment, ce n'est pas le même type de représentation. Hein. Les images physiques n'ont pas de contenu intrinsèque. Les images mentales ont un contenu intrinsèque. C'est-à-dire qu'elles sont individuées par leur contenu, ce qui n'est pas le cas des images physiques. Donc, si on admet ces distinctions tout à fait préliminaires, on peut distinguer au moins trois types de Si on revient à la question de savoir s'il peut y avoir des narrations mentales, on peut se poser la question de savoir quelle est la relation entre ces narrations mentales et des narrations proprement linguistiques. Et là, on peut distinguer trois formes, on va dire, de linguistico-centrisme, si vous voulez. Il y aura une forme austère selon laquelle, finalement, seuls les énoncés, seules des représentations proprement linguistiques, verbales par exemple, peuvent être narratifs. Donc le concept de narrativité a une extension relativement étroite. On peut avoir une conception modérée qui, on va dire, mais le concept de narrativité, il s'étend aux représentations mentales, mais seulement dans la mesure où ces représentations ont un véhicule ou des véhicules linguistiques. Donc on admet qu'on peut étendre un peu l'extension du concept de narrativité, mais on la restreint quand même aux représentations dont le véhicule est linguistique. Donc on peut se raconter des histoires dans son esprit, mais si on peut le faire, c'est parce que, par exemple, il y a un langage de la pensée, ou parce que le véhicule de mes pensées, c'est un véhicule symbolique, c'est peut-être l'intériorisation du discours oral. Comme Daniel Dennett, par exemple, le pense, quand on pense, en fait, on intériorise, Platon disait aussi la même chose, on intériorise le discours. Et puis il y a une conception radicale qui n'est pas très loin de ce qu'on pourrait appeler un pansémiotisme, la conception d'après laquelle toutes les représentations sont narratives, parce qu'après tout, tout est structuré comme un langage, ce qui me semble, à moi, une position peu fructueuse sur le plan scientifique, pas très intéressante, en fait, parce que si elle est vraie, eh ben, simplement, elle enlève au concept de narrativité sa valeur explicative. Enfin, je peux revenir là-dessus si vous le souhaitez. À mon avis, il y a une quatrième conception qui est peut-être plus intéressante. Enfin, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, c'est celle que je vais essayer d'explorer un tout petit peu dans ce qui suit. Selon cette quatrième conception, qui est non linguistico-centriste, donc la narrativité n'est pas l'apanage de représentations linguistiques ou quasi-linguistiques, c'est-à-dire des représentations mentales dont le véhicule serait linguistique ou symbolique. Mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin en essayant de montrer par quelques exemples que certains aspects, au moins de la narrativité, s'expliquent au niveau de représentations mentales dont le véhicule est en réalité iconique. Alors, comme promis, je vais me concentrer sur la question du point de vue. Et quand on parle de point de vue dans la narration, le premier point de vue auquel on peut penser, je suppose, c'est le point de vue du narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte l'histoire. Ce narrateur, ça peut être celui qui a écrit, enfin, ça peut être l'écrivain ou pas. Hein. Je veux dire, ça peut être aussi un narrateur fictif. D'ailleurs, ce que je vais dire là est relativement indépendant de la question de savoir si la narration en question est une narration fictive, si je puis dire, ou pas. Et par point de vue ou perspective, j'entends quelque chose d'assez général, donc en partie métaphorique. Il peut s'agir d'un point de vue au sens tout à fait littéral, des coordonnées, si vous voulez, spatio-temporelles, qui organisent le champ visuel autour d'une origine. Mais de manière un petit peu plus métaphorique, le point de vue du narrateur inclut aussi sa situation épistémique, c'est-à-dire ce que le narrateur sait, son système de croyances, son système de savoir éventuellement. Et puis, ses attitudes cognitives et évaluatives. Évaluatives, c'est-à-dire ce qu'il ressent, son système de valeurs, ses dispositions affectives, et ainsi de suite. Donc, c'est l'état mental, si vous voulez, global du narrateur qui peut être défini comme le point de vue de la narration. Alors, les trois études de cas, très rapides, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, que je voulais examiner. Et c'est tout à fait sélectif. Je pense qu'il y a d'autres aspects, beaucoup d'autres aspects qui sont pertinents pour poser la question qui m'intéresse, qui est en gros une question qui concerne le rapport entre langage et pensée, si vous voulez, ou langage et esprit, mais simplement sous l'angle du concept de narrativité. Il y a la question de l'indexicalité, il y a la question du déplacement contextuel, et puis il y a la question de la polyphonie, c'est-à-dire la possibilité d'avoir plusieurs points de vue simultanément dans la narration. Point de vue et indexicalité. Il y a un sens dans lequel le point de vue du narrateur n'est pas explicitement représenté dans la narration. Parce qu'après tout, si le point de vue du narrateur était explicitement représenté, il serait représenté d'un certain point de vue, et la question se poserait de savoir si ce point de vue est le même ou un autre que celui du narrateur. Donc Wittgenstein disait dans le Tractatus, l'œil ne fait pas partie du champ visuel. Il a dessiné ce petit dessin que que vous voyez ici. Alors, l'œil, il est à la limite du champ visuel. Peut-être qu'on voit des parties de l'œil, on voit son nez, etc. Bon, Gibson a d'ailleurs commenté ce passage de Wittgenstein en disant que, en fait, on percevait son corps quand on voyait, quand on avait des expériences visuelles. Donc, il n'y a pas d'expérience purement visuelle d'après Gibson. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la métaphore. Enfin, c'est l'idée qu'effectivement, il y a un sens dans lequel le point de vue narrateur n'est pas explicitement représenté. Et pourtant, la langue, évidemment, donne beaucoup d'indications sur la relation que le narrateur a à son contexte, notamment, mais évidemment pas seulement, mais notamment par l'utilisation d'expressions, ce qu'on appelle des expressions indexicales. Alors, des expressions indexicales, ce sont des expressions dont la référence, on va aller vite, hein, la signification varie selon le contexte d'énonciation. Et dans le cas des expressions à proprement parler indexicale, cette variation, elle est codée linguistiquement. C'est-à-dire, la signification des expressions indexicales donne une indication sur le type de relation que le locuteur, par exemple, a relativement à son contexte. Donc, si je dis « ici », le mot « ici » code le fait que, en gros, le locuteur parle du contexte dans lequel lui-même se trouve. Quand il dit « je », il code le fait qu'il y a une relation d'identité entre le référent et le locuteur. Et ainsi de suite. Il y a d'autres expressions contextuelles qui ne sont pas indexicales en ce sens-là. Par exemple, étranger, c'est une expression dont la référence varie avec le contexte, mais ne varie pas selon le contexte d'énonciation. Parce que les coordonnées spatio-temporelles de l'énonciation ne suffisent pas à déterminer ce qu'on entend par un étranger dans un énoncé particulier. Il y a des facteurs contextuels plus larges qui interviennent et qui ne sont pas codés linguistiquement, contrairement au cas de l'indexicalité. Alors là, on peut dire, voilà, on a un exemple intéressant, parce que si la narrativité exploite les ressources indexicales de la langue, alors la narrativité peut-être est essentiellement linguistique, parce qu'après tout, selon certains auteurs, l'indexicalité, c'est un phénomène essentiellement linguistique. Et donc, s'il y a des narrations mentales, elles exploitent par héritage, si je puis dire, les ressources de l'indexicalité de la langue, mais la priorité doit être donnée aux narrations linguistiques. Parce que l'indexicalité, c'est ce qui marque le point de vue du narrateur, et c'est un phénomène essentiellement linguistique. Donc ça, c'est un argument qu'on peut essayer d'invoquer. À mon avis, c'est un argument qui est intéressant, mais qui ne tient pas, selon moi, puisqu'il y a un ensemble de travaux qui montrent que, au fond, les représentations indexicales peuvent, dans certains cas, avoir un véhicule non linguistique, avoir un véhicule iconique. Là, je donne un exemple, il y en a beaucoup. Quand Husserl parle des représentations égocentriques dans la perception visuelle, c'est-à-dire quand je vois le monde, je le vois selon un certain point de vue qui est égocentrique. Je vois les choses à gauche, à droite, en haut, en bas, devant, derrière, etc. C'est une orientation qui constitue un mode de présentation de l'espace visuel et probablement un mode de présentation constitutif de l'espace visuel, en tout cas selon Husserl. Mais évidemment, pour Husserl, cette forme d'indexicalité, puisque c'est toujours à gauche de quelqu'un, du sujet voyant, cette forme d'indexicalité n'est pas du tout linguistique. Et Husserl développe à l'envi des arguments pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un mode de présentation linguistique. C'est un exemple, il y a beaucoup d'exemples de représentations indexicales dont le contenu est iconique et justement pas linguistique. Alors il peut y avoir des différences intéressantes entre les deux types de représentations indexicales. Je ne veux pas dire qu'il s'agit du même type de représentation indexicale, mais l'indexicalité n'est pas l'apanage de la langue. Donc le point de vue narrateur, on peut l'avoir aussi en pensée, on peut l'avoir par exemple en imaginant le monde selon le narrateur. Il y a de l'indexicalité dans cette opération, ce n'est pas forcément de l'indexicalité linguistique. Deuxième exemple que je voulais prendre, l'exemple du déplacement contextuel. Il y a un problème cognitif très simple qui est posé par la présence d'expressions indexicales dans l'écriture. C'est un problème cognitif qui tient au fait que le lecteur, évidemment, partage, on va dire, très rarement le contexte du narrateur. Si Gisèle écrit quelque chose sur un papier et que je suis là en train de regarder, au moment où elle écrit quelque chose, elle écrit « tu dois terminer dans deux minutes », J'espère que ce n'est pas vrai. Donc là, évidemment, je partage le contexte de Gisèle, donc je peux interpréter voilà, les expressions indexicales qu'elle utilise, ça ne pose pas de problème cognitif. Mais évidemment, dans le cas de l'écriture, ça pose un problème cognitif, d'autant plus évidemment si le narrateur est fictif. C'est comme si vous recevez une carte postale sur laquelle c'est marqué « Je passe du bon temps ici », mais la signature est effacée, le timbre a disparu, le tampon a disparu. Bon, comment interpréter cet énoncé? Alors, on pouvait thématiser la relation contextuelle que celui qui a rédigé la carte postale avait à l'égard du contexte dans lequel il se trouvait. Hein, vous pouvez dire « je », c'est qui passe du bon temps? C'est le locuteur, c'est celui qui a rédigé la carte. Il passe du bon temps ici ou là où il a rédigé la carte, etc., etc. Donc on peut thématiser, ce que j'appelle thématiser la relation contextuelle, et on le fait quand on lit de la littérature de temps en temps, mais on ne le fait pas toujours. D'habitude, on a un accès plus immergé, si vous voulez, au contexte du narrateur. Pas un accès détaché, intellectuel, mais un accès plus immergé. Dans ce dernier cas, on utilise la simulation ou l'imagination, et donc le déplacement contextuel fait appel à cette faculté d'imagination. Alors il y a une question qu'on peut poser, qui est rarement posée, c'est la question de savoir si ce déplacement contextuel, qui est souvent nécessaire quand on lit un texte, s'il est contrôlé linguistiquement. C'est-à-dire, quand je m'imagine me trouver dans le contexte du narrateur et utiliser les expressions indexicales qu'il utilise, est-ce que cette opération cognitive a un véhicule linguistique? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est contrôlée linguistiquement? Elle pourrait l'être si la langue disposait d'opérateurs intentionnels qui sont capables de déplacer l'index d'évaluation des expressions indexicales. Et en fait, ce qui est intéressant, je pense que c'est un point intéressant pour la théorie de la littérature, c'est peut-être un point très spécifique, hein. Il n'y a peut-être pas des implications vastes, mais je pense qu'il y a des implications intéressantes. Il se trouve qu'il n'y a pas d'opérateur intentionnel dans la langue, dans la plupart des langues, il y a quelques exceptions, mais c'est très local. Il n'y a pas d'exemple dans la langue d'opérateur capable de déplacer la référence des expressions indexicales. Donc, par exemple, il n'y a pas d'opérateur du type sur le lac de Constance qui permet de déplacer la référence de ici dans il pleut ici. Si je vous dis maintenant il pleut ici, ça veut dire qu'il pleut peut-être dans l'amphi, mais je suppose ça veut dire il pleut à Paris. Si je vous dis sur le lac de Constance il pleut ici, ici va continuer à faire référence à un lieu qui est déterminé par l'énonciation, par le lieu de l'énonciation. On ne peut pas déplacer l'interprétation d'ici par cet opérateur sur le lac de Constance pour que ici fasse référence de manière déplacée au lac de Constance. Ce n'est pas possible. La langue ne dispose pas d'opérateurs qui permettent de déplacer de cette façon la référence des expressions indexicales. Donc, c'est quelque chose qui a été noté par beaucoup d'auteurs. Là, j'ai une citation assez longue que je ne vais pas lire de David Lewis. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, en ce qui vous concerne, j'ai faim, ou le « je » de j'ai faim fait référence à vous. Ce n'est pas possible. Excusez-moi pour rendre cette affordance saillante à l'heure qu'il est. Voilà. Ou on ne peut pas dire « à rebours, ceci est trop cher ». Wittgenstein se demandait, est-ce qu'il peut y avoir une tribu, comme disait Wittgenstein, quand les gens pointent du doigt un objet, en fait, il faut regarder de l'autre côté. Bon. Et on peut imaginer des opérateurs qui inversent, si vous voulez, la direction pertinente d'interprétation des gestes déictiques, mais on n'a pas d'opérateur de ce genre, et ainsi de suite. Donc les logiciens disent aucun opérateur ne peut contrôler les expressions indexicales figurant dans sa portée, parce qu'ils sauteront en dehors de celle-ci devant l'opérateur. Alors, précisément, ces opérateurs sont qualifiés par David Kaplan, qui est un grand logicien sémanticien, ils sont qualifiés de monstrueux. On les retrouve dans certaines langues, ça c'est intéressant. Dans des langues comme l'amharique, une langue parlé en Éthiopie, notamment, il y a effectivement des formules du type, on peut dire par exemple, Pierre s'est rendu compte que je suis en retard, où le je fait référence à Pierre, et on veut dire par là que Pierre s'est rendu compte que lui-même était en retard, donc on marque la réflexivité par l'utilisation du pronom personnel, on le fait dans la portée d'un opérateur, c'est un opérateur d'attitude, et le je, là, change sa référence. Mais il y a très peu de langues qui permettent ce type d'opération. En revanche, l'imagination est beaucoup plus libre à cet égard et permet de... donc je vais aller un peu plus vite parce que il faut conclure. Permet de faire des choses que le langage, la langue ne permet pas de faire. L'imagination permet de déplacer notre contexte vers le narrateur pour rejoindre son point de vue sans avoir à thématiser les relations contextuelles pertinentes. Pour moi, ça signifie que l'imagination est une compétence cognitive autonome. Dernier exemple, la polyphonie. Ça, c'est très grossier ce que je vais dire ici pour les spécialistes de la littérature et les théoriciens de la littérature, mais c'est bien connu que la langue permet d'exprimer plusieurs points de vue simultanément au sein d'un même énoncé. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs énoncés pour exprimer plusieurs points de vue. Un même énoncé peut exprimer plusieurs points de vue. Il y a l'exemple du discours indirect libre qui a été beaucoup étudié. Il y a l'exemple du présent historique qui a été beaucoup étudié. Donc là, je passe. Quand je dis « que faire, c'était dans 24 heures, demain », eh bien, vous voyez que le temps passé des verbes est évalué relativement au contexte d'énonciation du narrateur, alors que « demain », c'est un adverbe indexical dont l'interprétation est centrée sur le contexte de l'agent dont la pensée est rapportée. Le présent historique, c'est un phénomène spéculaire, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes il y a un renversement des expressions qui sont interprétées selon le contexte du narrateur ou selon le contexte d'un agent ou même virtuel dans la scène. Alors là, on peut se poser la question de savoir si ce phénomène polyphénique, c'est un phénomène essentiellement linguistique, parce qu'après tout, il dépend de la possibilité de séparer des constituants, de les interpréter séparément dans le même énoncé, et peut-être que ça ne peut être fait que pour des représentations linguistiques. Je crois que non. Je crois que, là je vais être extrêmement rapide, il y a ce que Peter Goldie, un philosophe qui a publié en 2015 un livre posthume sur la narrativité, qui est un livre, à mon avis, très intéressant. Il y a un décalage ironique dans l'imagination, dans la mémoire, par exemple, autant qu'elle repose sur l'imagination. Et on retrouve cette même structure non linguistique qu'on retrouve dans le cas du discours indirect libre ou du présent historique. Goldie dit, par exemple, une narration, qu'elle soit effectivement racontée ou non, implique toujours une perspective externe, qui est distincte de la perspective interne, qui est celle d'un narrateur, qui est celle, pardon, de l'agent dont on raconte une histoire, et la perspective externe, d'après Goldie, c'est celle d'un narrateur, si vous voulez, virtuel. Par exemple, un des exemples que donne Goldie, c'est un exemple qui implique le souvenir. Ben, je me souviens d'avoir fait une plaisanterie lors d'une soirée, par exemple la soirée de l'EHESS hier soir, après avoir bu quelques bières, c'est un exemple tout à fait fictif, j'ai fait une plaisanterie douteuse qui m'a fait rire sur le moment. Je m'en souviens ce matin, je me dis, bon, c'est pas terrible, et je suis très embarrassé par ce souvenir. Alors, évidemment, l'embarras, c'est quelque chose que le sujet présent apporte éclair. L'événement passé est éclairé ou coloré par rapport aux dispositions affectives présentes. Et les deux niveaux de perspective sont maintenus dans le souvenir. C'est exactement ce que le psychologue appelle un souvenir affectif. En fait, pour terminer, je pense qu'en réalité, il y a trois perspectives. Les choses sont même plus complexes dans le cas de l'imagination. Il y a la perspective, et je pense que Goldie s'est trompé sur ce point, c'est-à-dire qu'il a voulu resserrer sur deux perspectives les phénomènes très complexes que l'imagination présente. En fait, il y a trois perspectives. Il y a la perspective du sujet qui imagine, la perspective du sujet imaginé quand on imagine soi-même dans une situation, soit passée, soit purement contrefactuelle. Et puis la perspective du narrateur virtuel, qui est en fait la vraie perspective interne qui intéressait Goldie. Là, je donne juste un exemple. Je me souviens maintenant que je me suis brièvement assoupi au volant de ma voiture sur l'autoroute. Je me souviens de l'émotion que je ressentais. Je peux même la ressentir en un sens de l'intérieur. Je me souviens que j'étais paisible, bon, j'étais là sur l'autoroute. Aujourd'hui, je suis soulagé parce que j'ai évité de justesse un accident mortel, probablement mortel. Mais dans mon souvenir, il y a une forme d'effroi aussi qui se manifeste. C'est la mémoire affective, c'est le narrateur virtuel qui, lui, en sait plus que le sujet au moment du souvenir. Il sait que la situation aura pu très mal tourner. Et donc, il sait que j'ai couru un risque très important, et il est effrayé par cette situation, parce que la situation est dangereuse pour moi. Donc on a ces trois perspectives, et vraiment je termine, et je pense qu'une théorie de l'imagination, dans toute sa complexité, doit tenir compte de ces trois perspectives qui, en fait, s'entrelacent de manière extrêmement complexe. Quand les trois perspectives sont complètement identifiées, on a un cas où, par exemple, ce que les psychologues appellent flashbulb memories, les souvenirs flash, où on est vraiment complètement immergé dans l'événement passé et, d'une certaine manière, on oublie le sujet présent. Donc, les trois perspectives sont identifiées. Il y a des cas où je m'imagine avoir vécu un événement passé de l'intérieur, mais des cas qui préservent le décalage ironique dont parle Goldie, donc ça, ce serait ce que j'appelle l'immersion faible. Et puis, il y a différentes formes de porosité, contagion émotionnelle, résistance imaginative, qui concernent la perspective du narrateur virtuel et celle du sujet imaginant. Alors, je donne juste deux exemples très rapides. Contagion émotionnelle, tout le monde connaît l'histoire relayée par Freud du cavalier sur le lac de Constance. Le cavalier galope sur le lac gelé de Constance, il arrive au village, il galope sans le savoir, parce que c'est en plein hiver, le lac est gelé, il y a de la neige partout. On lui dit qu'il vient de il demande où est le lac de Constance, on lui dit qu'il vient de le traverser au galop, et le cavalier meurt d'effroi. Alors, le cavalier, en fait, son problème, c'est la contagion émotionnelle, c'est-à-dire la perspective du narrateur virtuel qui présente cette situation qui vient de se produire comme étant extrêmement dangereuse et donc effrayante, a d'une certaine manière contaminé, si vous voulez, l'émotion du cavalier. Pourtant, le cavalier, au moment où il raconte son histoire, il est parfaitement en sécurité. Hein, donc, il n'y a aucun problème, si vous voulez, de danger. Voilà. Ça, c'est la contagion émotionnelle. Résistance imaginative, c'est la porosité dans l'autre sens. Hein, c'est le phénomène que Hume avait mis en évidence. C'est notre difficulté à endosser des perspectives moralement divergentes dans la fiction, par exemple, pas seulement dans la fiction, hein, où le narrateur exprime des points de vue ou exprime un système de valeurs qui est tout à fait contraire au nôtre. Hein, par exemple, c'est un serial killer, un tueur en série qui rédige le roman. Donc là, c'est aussi un cas où il n'y a pas d'indépendance entre les deux perspectives, narrateur virtuel, imaginant. Voilà, donc moi je plaide pour, plutôt, pour terminer, l'idée que certains aspects de la narrativité sont des aspects qui ne peuvent être expliqués que si on tient compte des complexités, des finesses de l'imagination. Je pense que même les sciences cognitives sont très en dessous. Je pense aux neurones miroirs, à la littérature sur les compétences de simulation, très en dessous de ce que notre imagination est capable de faire. Et donc là, je pense qu'il y avait un vrai travail à faire. Ce qui ne veut pas dire que d'autres aspects de la narrativité dépendent essentiellement du langage, hein, ça je le pense aussi, ce qui, évidemment, ouvre un programme de recherche où il y a une collaboration bidirectionnelle, c'est ça qui est important, entre théorie de la littérature d'un côté, et puis philosophie de l'esprit, philosophie du langage, sciences cognitives de l'autre. Voilà. Désolée.
Merci beaucoup, Jérôme. Merci pour cet exposé à la fois très clair, très stimulant. Alors, on va peut-être prendre une ou deux questions très rapides et éventuellement on reviendra à la fin, après la communication de Claude Calame, sur la discussion plus générale. Est-ce qu'il y a une question brûlante ?
Je ne sais pas si elle est brûlante. En tout cas, merci. Je me demandais si tu dois avoir sûrement des raisons pour utiliser un véhicule à la place des médiums. Et je me demandais si une expérience comme celle qu'on peut faire dans une chapelle baroque, par exemple, dans laquelle il y a du linguistique, de l'iconique et de l'imaginaire, parce que le montage entre les peintures, sculptures et architectures induit un travail de l'imagination qui doit déboucher sur une forme de travail mental souvent formalisé, par exemple celui des exercices spirituels qui aboutit à une forme d'association, d'identification, de sympathie que j'appellerais plutôt conformation dans les termes du XVIIe siècle. Cet objet-là, est-ce qu'il est trop compliqué ou est-ce que, parce que je me posais la question de l'intermédialité d'une part et des moments d'expérience où ces trois strates sont imbriquées l'un dans l'autre, enfin on ne peut pas si facilement les séparer.
Oui, non, je te remercie de ta remarque. Non, évidemment, il s'agit de remarques extrêmement préliminaires qui concernent des exemples très simples. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la pauvreté de la science, c'est qu'on est obligé de partir d'exemples très simples. Et Wittgenstein déplorait qu'en philosophie, on se contente justement d'exemples très simples et pas de partir de la diversité des exemples comme celui que tu as donné. Donc tout à fait d'accord. Bon, moi, je suis optimiste, donc je pense qu'une réflexion sur ces exemples peut déboucher sur un programme de recherche qui, dans plusieurs décennies, pourrait avoir des outils, enfin j'exagère un peu, des outils qui seraient susceptibles de dire des choses intéressantes sur le type d'exemple que tu donnes, hein, tout à fait. Où il y a des, alors véhicule, le médium, pour moi c'est la même chose. Hein, bon, ouais. c'est peut-être un bien anglo-saxon parce oui, que c'est vrai oui. que voilà.
Mais,
c'est
non mais véhicule, ouais, c'est tout ça. À fait. Hein.
Ouais.
Moi, j'avais une question, mais qui fait enfin, j'avais deux questions, mais je réserverai l'autre. Mais ce qui fait la transition avec la prochaine communication, c'est parce que tu parlais de langage et de représentation iconique, mais quid des sons qui participent aussi qui ont une narrativité aussi en musique. Voilà. Peut-être tu veux en dire un mot là, et puis après. Bon.
Oui, bah à nouveau, évidemment, c'est très, comment dire, il y a un petit côté fondationnel hein, dans cette approche qui interdit de penser, enfin qui interdit, je veux dire, qui, à ce stade-là, ne pense pas la distinction entre type de représentation iconique. Alors, c'est vrai qu'iconique évoque image, mais je l'entendais dans un sens plus général, où il peut y avoir des images sonores ou des images auditives. Bon.
Mais tu penses le son en termes d'image, oui, c'est ça.
Dans quelques... Oui. Au sens d'image, oui, c'est iconique, c'est peut-être. S'il y a une connotation visuelle dont on ne peut pas se débarrasser, il faudrait que je trouve un autre. Mais même image, hein, une connotation oui. visuelle. Bon.
Micro.
Ouais. Alors, dans la musique, il y a la note. Et la note ressemble un tout petit peu à une catégorie syntaxique. Hein, donc, la musique. Est-ce que c'est la musique, est-ce que c'est la musique tonale, par exemple, ou là, comme vous le savez, enfin, je veux dire, même des grammairiens ont tenté de comme Jacques Hundoff et Lerdal, par exemple, ont tenté de, à leur risque et péril, de montrer qu'en fait, il y a une structure syntaxique. Mm-hmm. Pour moi, la musique, c'est pas un langage pour des raisons. Pourquoi ? Parce que la musique a une syntaxe, la musique a une sémantique, mais il n'y a pas de relation systématique entre syntaxe et sémantique dans la musique.
Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que dans le critère que vous donnez pour dans la distinction linguistique iconique, le critère de compositionnalité vaut aussi pour la musique. Et
c'est intéressant, tout à fait. Ouais.
Oui,
on est dans un cas effectivement un petit peu peut-être intermédiaire, hein, où on a des catégories quasi syntaxiques. Qui rapproche effectivement la musique de véhicules linguistiques ou symboliques, on va dire. Maintenant, est-ce qu'elles ont un contenu ? Est-ce que ces véhicules sont véhicules un contenu ? Ça, c'est une autre question.
Oui, mais en termes de narrativité, on peut... Ouais. C'est pas une question de langage, mais une question de... Bien, alors du coup, je pense que Denis Laborde aura sans doute des choses à dire sur la question. Donc, il est directeur d'études à l'École des études en sciences sociales, anthropologue de la musique, et son dernier ouvrage s'intitule « La mémoire et l'instant ». C'est sur les improvisations des chants basques. Et il va nous parler de « La musique au pluriel, enquête sur l'institution des catégories ».
Merci, je dois m'excuser donc du dispositif dans lequel je me situe, mais en fait, ça me permet de commencer ma communication et de relier, je suis obligé de vous quitter à 13h15 parce que je dois me rendre à Royaumont et pour une bonne raison, ça fait partie d'un partenariat qui est tissé par l'école et la Fondation Royaumont depuis 8 ans maintenant et il y a des étudiants de l'école donc qui participe à des sessions de création à Royaumont. Voilà, là il y en a 4 cette semaine qui se trouvent là-bas et qui cet après-midi donc vont restituer leurs observations devant le public et avec la compositrice Maglone Vidal qui crée un opéra sur des textes de Pascal Quignard. Voilà, donc je les accompagne dans ce mouvement-là et je profite de la parole qui m'est donnée aujourd'hui pour lancer un appel à vous tous, si vous avez des étudiants, si vous-même vous êtes intéressés de vous associer à ce partenariat avec Croyaumont. La porte est ouverte et les demandes, voilà, tout le monde est en recherche de collaboration. Voilà. Il n'est pas nécessaire que vous soyez musicologue, musicien ou autre pour participer, puisque voilà, il y a plein de choses à voir à Royaumont dès qu'on ne s'intéresse pas seulement à des analyses de contenu. Donc je ferme ma parenthèse et donc je m'excuse, je vais devoir sans doute partir juste après ma communication. Il y a donc une énigme de l'organisation institutionnelle des études qui portent sur la musique. Ces études occupent une place ancillaire dans le panorama de recherche en sciences humaines et sociales, alors que leur objet même, la musique, est omniprésente dans les sociétés contemporaines, en permanence et partout dans le monde. Cette énigme du décalage entre l'offre institutionnelle et l'omniprésence de la musique dans les sociétés contemporaines tient pour partie à une répartition du travail qui a longtemps pris le style comme principe de démarcation. Et pour citer quelques exemples anciens, a confié le rock aux sociologues, Stockhausen aux philosophes, Bach aux musicologues et Glenn Gould aux psychiatres, Victor Jara aux politistes et la lambada de Naguère à l'économiste. Or, les recherches menées à l'EHESS sur le thème de la musique sont caractérisées par une interrogation permanente de l'espace cadastré de notre monde académique, ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser quelques difficultés dans nos dialogues institutionnels, et Esteban Bourg pourrait vous en dire long sur ce thème. Mais cette interrogation permanente que nous portons sur les catégories qui gouvernent l'espace académique des études sur la musique se repère assez facilement à deux indices. D'une part, la façon dont Michael Werner a pu penser la formation musique, histoire, société au sein de l'école. D'autre part, le fait que la plupart de ceux qui interviennent dans cette formation aujourd'hui interviennent aussi dans d'autres formations, en histoire, en sociologie, en ethnologie, en philosophie. Dans tous les cas, ce regard porté sur l'organisation des savoirs relatifs à la musique est portée non pas d'une manière frontale à partir d'un démontage des rouages organisationnels et des arrangements disciplinaires qui font la stabilisation de nos paysages institutionnels, mais de biais à partir de nos pratiques d'investigation. Et c'est ce qui fait la richesse de l'offre musique dans notre école. Il importe peu que les thématiques de recherche cherche à fédérer des approches hypothétiquement complémentaires ou bien qu'elle cherche à créer un dissensus productif. L'important, c'est que ces analyses soient conduites toujours à partir de l'analyse des situations. Or, adopter un tel point de vue implique de renoncer à toute théorie unifiée de la musique, et c'est ici que les choses se compliquent. Car si l'on ne peut raisonnablement poser la question des disciplines en charge du secteur musique sans poser la question des objets qui entrent dans ce secteur musique, cela pose la question de la faisabilité ou pas des entreprises encyclopédiques, et c'est à cet aspect qu'est consacrée ma communication. Toute opération de catégorisation est une appréciation normative, elle s'accompagne d'une évaluation. Au moment où je décide de faire entrer une séquence acoustique dans la catégorie musique, ou que je décide de l'exclure au prétexte qu'elle n'est pas de la musique, au moment où je décide de légitimer tel énoncé pour le faire entrer dans le champ des études musicales ou au contraire de forger de bonnes raisons pour l'en exclure, mon oreille qui pense conseille toujours mon oreille qui écoute. Comment traiter cette opération de mise en catégorie? Une manière de résoudre cette question du filtre évaluatif serait de ne pas y penser. C'est la solution la plus couramment adoptée. Après tout, nous pouvons fort bien oublier cette relation à la catégorie, et d'ailleurs nous l'oublions, lorsque nous travaillons à l'intérieur de cette catégorie. Lorsque nous engageons dans une description de la pratique musicienne, ou bien que nous nous efforçons d'en esquisser une théorie, envisager de la sorte le Wissenschaftler, n'oublie pas que j'appartiens à un centre franco-allemand, le Wissenschaftler, s'occupant de musique, rejoindrait d'une certaine manière l'anthropologue crédule dépeint par Gérard Lanclune ou l'historien tout aussi crédule dépeint par Paul Venn, je cite, qui ne se trouve à l'aise dans l'étude des conduites que lorsqu'ils se sont conceptuellement ou pas installés dans la paisible conviction que la conscience qu'un individu ou une société ont de leur conduite est la moindre des choses. Ce qui serait pour l'ethnomusicologue ou pour l'anthropologue une manière de régler la question de la catégorie en posant l'univocité de l'univers de référence qui gouverne l'engagement dans l'action musicienne. En gros, si l'univers de référence est univoque, il n'y a pas de conflit d'interprétation possible et la question de la catégorie n'est plus un enjeu. Il en irait ici de la catégorie, comme il en serait ailleurs de l'ontologie, inutile de connaître les déterminations cognitives d'un objet pour le rendre intelligible. Une forme de réalisme immanentiste rendrait toute enquête sur la catégorie obsolète. À ceci près que un tel positionnement est sans doute recevable, ou en tout cas endossable, lorsque la discipline sous le parrainage de laquelle nous conduisons nos observations jouit d'un positionnement favorable dans l'espace cadastré des disciplines académiques que j'évoquais plus haut. Mais lorsque l'univers du savoir sur lequel nous décidons de travailler est celui des musiques du monde, nous ne pouvons pas oublier la question de la mise en catégorie, car il suffit d'agiter le syntagme « musique du monde » dans nos délibérations pour que surgisse, comme en régime d'automaticité, la question des musiques d'ailleurs, les musiques d'ailleurs que du monde. Comment déterminer en effet les musiques du monde par opposition à des musiques qui n'en seraient pas? Mais si les musiques du monde ne se laissent pas définir par contraste avec des musiques qui ne seraient pas du monde, comment les définir autrement que dans une acception tautologique qui ramène les musiques du monde à la musique? Et alors pourquoi ne pas faire de la musique médiévale, de la musique baroque, de la musique contemporaine des musiques du monde au même titre que la musique basque ou irlandaise a supposé que les adjectifs veuillent dire quelque chose? Ici, donc, impossible d'échapper au débat sur les catégories. Et j'en viens à la deuxième de mes trois étapes de cette intervention. Quand on évoque la question des catégories en sciences sociales, on pense spontanément à une problématique de la classification. Catégoriser, c'est diviser, c'est classer. Et si cette identification à la catégorisation, à la classification, on ajoute une conception de la connaissance et de la pensée comme activité de distinction et de regroupement, on comprend pourquoi l'enquête sur les catégories, sur les processus de catégorisation et sur l'organisation des cadres catégoriels occupe une place centrale dans l'étude de la cognition, nous dit Louis Quéré, lecteur de David Bloor. Or, nous allons apercevoir maintenant que les catégories musicales ne se réduisent pas à des schèmes classificatoires, ni les cadres catégoriels à des systèmes de classement. Les études développées par Marcel Mauss, par exemple, sur les catégories, que ce soit sur le mana, sur la notion de personne, nous rappellent ceci, que le fait de classer importe davantage que la classification. Et c'est un peu comme l'improvisation. Le fait d'improviser importe souvent davantage que le résultat. Dès lors, les catégories sont des cadres stables de la pensée conceptuelle qu'il convient de considérer comme des choses sociales. Or, faute de considérer les catégories comme des choses sociales, les essais de grand partage des manières de fabriquer de la musique de par le monde ont échoué. Ils ont transformé la problématique de l'engagement dans l'action musicienne en un problème de cartographie des genres et des styles de musique, en cultivant l'illusion que cette cartographie était de nature générique, de discrimination du réel, alors qu'ils sont de nature génétique, d'instrumentation conceptuelle, pour reprendre les termes proposés naguère par Gérard Lanclus dans sa critique des essais de grand partage. Fort de cette précieuse mise en garde, donc, je propose maintenant de visiter deux espaces encyclopédiques. Le premier, je passe sur cette idée que du dictionnaire pour la musique de Rousseau, dans lequel il reprend son article composé pour l'encyclopédie, dans lequel il instancie deux rubriques, une musique des anciens, qui est la musique historique, et puis une autre plus exiguë qu'il intitule « Musique des sauvages », dans laquelle on rencontre un air chinois et un air des sauvages du Canada, dit-il, alors que cet air des sauvages du Canada est en réalité la transcription d'un chant noté par Jean Delery dans l'édition de 1585 de son histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil. Voilà. Donc, c'est une transcription qui n'est pas dans la première édition du livre, mais dans la troisième de 1585. Et que Villa-Lobos a d'ailleurs a repris pour en faire une œuvre magnifique. Donc, vraiment, on a là, dans l'entreprise encyclopédique et dans Rousseau, une fois encore, on aura beaucoup parlé de lui ce matin, un acte un peu fondateur d'instauration des rubriques dans cet espace encyclopédique. Et celui qui va retenir mon attention, évidemment, c'est François-Joseph Fétis, qui est regardé comme le fondateur de ce qu'on appellera la musicologie. En 1867, François-Joseph Fétis écrit un rapport qui est lu le 21 février 1867 par l'un des sociétaires de la Société d'anthropologie de Paris, un rapport intitulé « Sur un nouveau mode de classification des races humaines d'après leurs systèmes musicaux ». L'idée de classer les populations humaines d'après leur système musical a toute l'apparence de l'objectivité. Voici en gros les quatre étapes du raisonnement. 1. Des caractéristiques issues de l'analyse musicale sont promues au rang de propriété intrinsèque d'un énoncé musical. Mais longues études relatives à la musique des anciens m'ont appris que les races avaient une musique comme elles ont une langue particulière. Telle est la première phrase de ce rapport que je soumets à la critique de Jérôme. Donc les races auraient une musique particulière comme elles ont une langue particulière. Deuxième étape du raisonnement, des caractéristiques forgées par le commentaire musical sont érigées en d'hypothétiques traits de nature de l'ensemble des pratiques musicales d'un groupe. Troisième étape, le commentaire passe aisément du trait de nature à la désignation d'un particularisme, alors la pensée classificatrice peut procéder à un incessant travail de rangement. 4. Il suffit de présenter la mise en catégorie comme un trait de nature en omettant de signaler qu'il est en réalité le produit de cette construction savante, et l'on se trouve face à l'évidence. Ainsi, alors que les spécialistes de l'histoire des populations peinent à décider de l'origine slave ou lapone des Finnois, Fétis analyse le système musical pour savoir si les Finnois penchent du côté de la civilisation, auquel cas ils seraient slaves, ou s'ils penchent du côté d'un état antérieur de la civilisation, dans ce cas, ils seraient lapons. Or, ils chantent sur des échelles pentatoniques, soit des échelles 5 degrés, alors que notre musique savante occidentale, le monde civilisé, en possède 7 degrés. Donc, les Finnois sont rangés du côté des lapons. Alors, je ne suis pas certain, je ne commente pas l'analyse de Fétis. Il aura été très peu suivi quand même par la Société d'anthropologie sur ces raisonnements-là. Il y a une critique de Broca au cours de cette séance qui est assez édifiante. Mais je ne suis pas certain que cette idée de rabattre des caractéristiques musicales sur des caractères du peuple ait totalement déserté le champ de la production scientifique contemporaine. Mais l'idéal de la catégorisation des musiques du monde par l'attribution à une idéologie de peuple demeure une ambition intrinsèquement liée au projet encyclopédique. Et c'est ce qui retient mon attention pour conclure avec la dernière grande encyclopédie en date, qui est celle coordonnée par Jean-Jacques Nattier chez Actes Sud, qui s'appelle « Musique » au pluriel, une encyclopédie pour le 21e siècle. L'encyclopédie est parue en 5 tomes, et le cinquième de ces 5 tomes contredit l'ensemble de l'entreprise. Il est consacré à l'unité de la musique, donc au singulier, alors que l'ensemble du projet affiche l'ambition d'inventaire en portant pour titre « Musique » donc au pluriel. Jean-Jacques Nattier se sent mal à l'aise, à vrai dire, et voici sa phrase d'incipite de ce cinquième volume. « Ce dernier volume déplaira peut-être à peu près à tout le monde. » Et il poursuit. Aux amoureux de la musique classique et aux mélomanes, qui, encore une fois, dans cette encyclopédie, seront confrontés ici aux musiques extra-européennes, aux musiques pop, à ceux, à l'inverse, pour qui les musiques sérieuses sont des musiques élitistes et, à ce titre, suspectes, alors qu'il conviendrait de parler le plus de celles qui sont omniprésentes à la radio, à la télévision, au cinéma, à ceux, encore, pour qui, considérant qu'une musique particulière, etc., etc., etc. Il dresse un inventeur des attitudes de lecture qui peuvent rendre les gens insatisfaits, et ils trouvent la raison. La dispersion en de multiples directions de la pensée musicologique au début de ce 21e siècle, qui résulte en partie de l'éclatement des musiques dont l'ensemble de cette encyclopédie a tenté de rendre compte, en est la cause. Ainsi, Nattier marque-t-il le caractère tautologique de l'entreprise de connaissance en tentant de dresser l'inventaire de toutes les musiques du monde. L'encyclopédie rend tout le monde insatisfait. Et il introduit une problématique de l'attachement dans la mise en série, en faisant ainsi de la catégorisation une affaire de goût, un peu comme Nicolas Jojou, interrogeant les usages de la catégorie « musique du monde » dans les présentoirs de deux grandes enseignes de la distribution de disques, en étudiant ces rayonnages comme des espaces de mise en scène de la diversité du monde, rabat l'étude du dispositif sur une analyse des goûts, des attachements et des convictions. Catégorisation donc, et goût semblent donc étroitement liés, comme sont liés aujourd'hui chez certains sociologues, la disposition à aimer et la capacité à discriminer. Dans son inventaire, Jean-Jacques Nattier, quant à lui, décrit ce qui devrait être une anthropologie culturelle de la musique qui pourrait rendre compte et venir à l'appui de cette entreprise encyclopédique. Aucun genre, aucun type de musique, aucun tendant, mais aussi aucune dimension du fait musical ou aucun paramètre de son champ d'investigation ne doit être écarté ici. Et cela vaut pour les musiques de films, pour les musiques de télévision, pour la musaque, la musique des Waltman, pour les musiques des femmes, pour la musique des homosexuels, pour la musique pop et pour celle qu'écoutent les jeunes. Mais on prendra soin de distinguer de l'orientation culturaliste à l'anthropologie. Il ne s'agit pas pour l'instant de porter discussion sur le terrain de la valeur. Ce qui compte ici pour Nattier, donc, c'est d'élargir la notion de musique et de faire entrer dans l'encyclopédie des catégories musicales les plus invraisemblables. La manière de travailler ici la notion de catégorie serait donc de reproduire ad infinitum pour la diffracter, ramifier, ne rien omettre de la richesse musicale du monde, cette catégorie de musique. Nattier travaille au sein des catégories instituées dans une perspective extensive qui lie le destin du projet encyclopédique au durcissement des catégories. La pertinence du projet croît en raison directe de la richesse de l'inventaire. Plus les catégories sont nombreuses, plus le projet encyclopédique est pertinent. Mais à aucun moment, le processus de mise en catégorie n'est interrogé, ce qui fait que Nattier manque sa cible. Et je conclus sur cela. Car pour ce qu'une anthropologie de la musique conteste, c'est l'idée même d'une catégorie dont l'existence irait de soi, ne serait pas thématisée, que l'on ne chercherait pas à apercevoir comme le produit d'un travail historique, politique, académique, économique, philosophique, un travail d'institution. Il va de soi que pour tout anthropologue, le travail d'institution des catégories n'existe pas indépendamment de l'objet que l'on entend rendre intelligible, et aucune enquête ne peut se construire sans une étude de la place prévue pour les pratiques musiciennes étudiées dans les sociétés considérées, et en tout cas dans la société, la nôtre, qui a l'idée de se poser la question. Pour reprendre une phrase fameuse de John Dewey, l'environnement n'est pas un simple décor dans lequel un agent s'engage dans une action, il est constitué dans l'action. Je cite, « La vie se déroule dans un environnement, pas simplement en lui, mais à cause de lui, en interaction avec lui. » Fin de citation. Et si l'on veut bien considérer que la catégorie assignée à une séquence acoustique fait partie de cet environnement, alors toute démarche anthropologique se doit de considérer l'assignation catégorielle comme une dimension d'interaction avec l'environnement. Mais alors, plutôt que de considérer l'espace encyclopédique qui cadastre cet espace comme une série d'exemples menant expliciter un classement des affaires humaines construit a priori et en dehors de toute référence directe à la réalité, il convient d'élaborer une pensée par cas, selon le coup de maître réalisé naguère par Jacques Revel et Jean-Claude Passeron, qui organisent précisément ce mouvement inverse de la connaissance, de l'observation située vers une montée en généralité qui est offerte comme une possibilité, mais certainement pas comme le but ultime de la connaissance. Or, pour construire ce mouvement de connaissance-là, il faut renoncer à épurer le réel de toutes les dimensions qui viennent troubler toute séquence musicale que l'on voudrait isoler de l'intérieur et accepter de décrire l'action musicienne dans ce que Jean-Louis Fabiani appela l'irréductible désordre de l'expérience esthétique. Toute catégorie est partie prenante de cette expérience-là. Pour évoquer cette fois quelques-unes des catégories mobilisées par les opérateurs culturels de Royaumont que je vais aller rejoindre tout de suite, les différences catégorielles entre musique du monde, comme genre maladroitement institué, comme musique sérieuse, pour nous référer à Pierre-Michel Menger, ou comme musique baroque ou comme musique médiévale, ne sont pas seulement des différences de style, ce sont des différences de style, certes, mais aussi des différences de présentification de musique, des différences de concert, des différences de budget, des différences de public, des différences de lieu, de situation. Il s'ensuit que les catégories ne sont pas de simples représentations du monde, mais qu'elles sont des formules d'opérations possibles ou des méthodes pour encadrer les activités pratiques de détermination, de prédication, d'individuation, de classification, de configuration, d'organisation aussi des cours d'action. Je cite à nouveau Louis Carré. Et c'est en cela que le débat sur les catégories importe pour nous autres des musiques du monde qui sommes mal installés dans le monde des légitimités institutionnelles. Les catégories importent, mais à la condition donc de considérer qu'une détermination consensuelle du syntagme musique du monde importe beaucoup moins que le fait que des musiciens, des opérateurs culturels ou des scientifiques puissent tenir une séquence acoustique comme relevant des musiques du monde. Je vous remercie.
Merci Denis Laborde pour cette critique des catégories savantes et du sens commun savant, pourrait-on dire. Voilà, donc nous avons quelques minutes pour poser des questions, afin que Denis puisse attraper son train pour Royaumont. En tout cas, cette question de la classification, c'est vrai qu'on la rencontre beaucoup aussi en sociologie de la musique, avec des catégories figées, donc le jazz est dans la culture populaire, et donc du coup, on constate par exemple qu'il y a une remise en cause des hiérarchies culturelles, parce que aujourd'hui, on parle plus du jazz dans la presse, alors évidemment, est-ce que c'est du même jazz que celui dont il s'agissait il y a 30 ans, ou est-ce que est-ce que c'est pas d'un certain type de jazz? On ne différencie pas les genres eux-mêmes entre différentes pratiques. Voilà, donc.
Le coup de maître de la sociologie sur cette question des classifications et des mises en catégorie, c'est quand même d'avoir montré et de travailler maintenant la question de l'éclectisme. Enfin, cette question de l'omnivorisme culturel qui ne peut être présentée dans l'espace public qu'à la condition que les catégories soient durcies, instituées et reconnues.
Le problème de l'omnivorisme aussi, il y a eu un énorme débat autour de ça, c'est que l'omnivorisme est attribué aux classes dominantes et les classes populaires sont supposées univores. Et donc, par exemple, quand on s'aperçoit que dans les statistiques nationales, il n'y a pas la musique ethnique, bah forcément, forcément, et qu'on regroupe dans la catégorie musique populaire tous les genres qui existent, bon, il y a une forme d'absurdité dans ces classifications. Et puis l'omnivorisme, s'il n'est jamais aléatoire. Enfin, je veux dire, on lit des polars, mais on ne lit pas des romans sentimentaux. Donc, c'est pas non plus. Voilà, dans les classes de. Ou en tout cas, on ne le dit pas, quoi. Voilà.
Moi, je me demandais si, aussi, comment ça se. Cette division, enfin, je ne sais pas si c'est le terme division, mais cette pluralité en musique du monde, comment ça se retrouve dans les apprentissages? Est-ce que, par exemple, quand on fait de la musique, moi, quand j'ai fait, on dit, et souvent on dit, vous allez faire, par exemple, du solfège, enfin, il y aurait un solfège universel, il y aurait une formation universelle. Bon, comment ça se déplace dans le système des apprentissages ou dans le système des formations ou de la formation ou de, voilà.
Grâce aux coopérations qui sont engagées par les chercheurs avec les institutions en charge du secteur et avec les secteurs associatifs et avec les praticiens. C'est un lien direct entre ce désir éprouvé et sous lequel nous croulons à l'école, c'était bonne fois à parler, d'opérateurs culturels, de musiciens, d'artistes qui demandent une expertise de la part de gens qui peuvent leur fournir un retour en réflexivité. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce retour en réflexivité, du dialogue très fructueux, là, on peut en témoigner, qui s'instaure entre nous tous, la question des catégories vacille. C'est très directement lié à l'expérience. C'est parce qu'elle met en cause les répertoires, les modes d'apprentissage, les types de pédagogie. Est-ce qu'on choisit une pédagogie individuelle ou une pédagogie collective? Voilà, il y a toute une organisation de la musique qui est travaillée et par ce type de réflexion que nous menons tous ici, sur des modes différenciés, mais qui intéressent beaucoup, qui touchent beaucoup les acteurs. Enfin, moi, je suis très sensible à ça.
Mais en même temps, comme vous le disiez, en fait, ces catégories, elles orientent la pratique, et pas seulement la pratique des chercheurs, mais aussi la pratique d'écoute. Ça crée, c'est comme les genres littéraires, ça crée des attentes, ça crée des qui ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que, je ne sais pas, la musique indienne, quand on l'écoute en Inde, on peut rentrer et sortir à n'importe quel moment du concert. Quand on l'écoute en concert en France, et ben, c'est la forme concert, parce qu'elle a été dignifiée, érigée au rang de musique du monde, donc légitime, le processus de légitimation dont vous avez parlé.
Oui, on est prisonnier des formats. Ce sont des constructions culturelles. Les nuits du raga, en général, ça s'arrête à 2h du matin, quand c'est par le festival d'automne.
Il a travaillé sur les musiques répétitives. Sur la musique répétitive,
sérielle, tout ça. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus sur ce type de musique sérielle et tout ça? Et disons, de quelle manière, entre temps, cette musique répétitive est pertinente vis-à-vis d'un contexte qui est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui?
La
musique répétitive, c'est quand même. C'est assez typique, tu penses au travail sur Steve Reich, je pense, ou John Adams. C'est typique de compositeurs qui ont fait le lien, qui ont créé du lien entre des espaces qui étaient antagoniques, c'est-à-dire un espace de musique, on va dire, traditionnelle, en tout cas, de travail sur les continuums percussifs de l'Afrique de l'Ouest, qu'ils ont fait rentrer dans le monde académique de la composition sérieuse, on va dire, ou savante, et ils ont ouvert un espace de négociation de cette manière-là, de discussion entre les différents espaces, qui n'a pas toujours été très facile, parce que Steve Reich n'était pas spécialement le bienvenu à l'IRCAM quand il y a séjourné. Mais après, c'est repris aujourd'hui. Enfin, le succès de ces compositeurs-là fait qu'ils sont considérés aujourd'hui comme les pères des DJ qui font qui s'inspire de cette idée de trance, de musique répétitive, mais ce qui met très mal à l'aise, Steve Reich, parce que voilà, il y a quand même un cultural gap pour lui aussi, quand même, entre ce que lui a essayé de faire et puis ce que. Mais voilà. Bon, après, c'est une question d'ouverture des compositeurs aux usages qu'on peut faire de leurs œuvres une fois écrites.
Dernière question de Talia Bachy.
Oui, merci beaucoup. Je me pose une question en 10 ans qu'on travaille sur les musiques du monde, est-ce qu'on reprend pas encore cette, cette logique de faire penser qu'il existe quelque chose comme un monde unifié des musiques du monde ou un genre? Donc enfin, ça, c'est toujours le problème.
Oui, bah oui.
Et d'autre part, l'autre question que je me pose, c'est, alors, c'est toutes ces pratiques qui ne sont pas désignées par des catégories instituées. Et il y en a plein des pratiques musicales quand on se met en quête, je ne sais pas, d'aller chercher sur les musiques. Oui, les musiques. Alors, musique et immigration, par exemple, tout ce qui ne rentre pas dans musique du monde, dans les festivals musique du monde. Alors, ce n'est pas une catégorie. Mais alors, comment on entre dans des choses comme ça et... Alors, est-ce qu'on va le spécifier en termes de contexte, de situation?
Non, mais alors, musique du monde, évidemment, il y a deux acceptions. J'espère que ça n'a échappé à personne, que j'ai un peu joué sur le mot, parce que c'est une petite blague aussi que j'ai faite avec Esteban. Voilà, mais musique du monde, c'est la musique, voilà, c'est tout. Si on prend le sens littéral, bon, mais après il n'empêche que institutionnellement ça existe comme une catégorie. Si je dis que je m'occupe de musique du monde, on va comprendre que quand j'ai écrit mon travail sur Marc-André par exemple, qui est un compositeur, ce qu'il y a de plus classique, qui écrit pour une œuvre pour quatre symphonies créée à la Philharmonie de Berlin, je ne dis pas que je travaille sur les musiques du monde. Voilà, donc c'est en tant que catégorie opératoire dans le monde que nous essayons de rendre intelligible. Donc on ne peut pas non plus superposer. Puis musique et migration, ce n'est pas pour rien que quand même, dans ces programmes politiques et engagés sous le label musique et migration, on trouve un désir d'ouverture au monde. Donc moi, je regroupe tout ça conceptuellement. Ça ne me gêne pas du tout que le syntagme musique du monde sert à couvrir tout ça et sert à montrer, par exemple, pour la thèse remarquable que vous avez faite, Talia, sert à montrer qu'en Allemagne, il y a un désir de valoriser l'immigration en faisant connaître les musiques produites par les immigrés vivant dans le pays et que ça participe de la consolidation et de la diversification, on peut dire aussi, de l'enrichissement de ce syntagme, musique du monde, mais dans une visée de cohabitation pacifique.
Bien, voilà, merci beaucoup pour cette jolie conclusion de la discussion. Et on va à présent vous libérer et passer la parole enfin à Claude Calam, qui est directeur d'études à l'EHESS également, qui est helléniste, anthropologue, spécialiste de la mythologie grecque notamment. Et donc son dernier ouvrage, Mythes et histoires dans l'Antiquité grecque, est paru aux Belles Lettres en 2011. Et donc il va nous parler de création poétique et savoir partagé, pragmatique des formes poétiques grecques.
Merci. Alors, vu l'horaire avancé, je commence in medias res et sans captatio benevolentiae, sinon la recommandation peut-être de maîtriser encore votre appétit pendant 20 minutes. Dès la fin du siècle dernier, donc, ce qu'on appelle les études littéraires ont amorcé un évident déclin. Cette désaffection s'est ressentie aussi bien dans l'enseignement secondaire et universitaire que dans la recherche sur les littératures. Constat unanime, quelques citations ici, du côté de l'enseignement de la littérature, nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise des études littéraires qui s'exprime par les interrogations suivantes. À quoi sert l'enseignement des lettres? Faut-il le maintenir? Et si oui, que faut-il y faire? Vincent Jouve. Du côté de l'étude de la littérature, aujourd'hui, la question porte non sur le comment de la production littéraire et de son étude, mais sur l'existence même de la littérature et l'intérêt de son étude. Dominique Minguenot. Du côté de la théorie littéraire, citation encore, tout en se réclamant de la contestation et de la subversion, en tout cas en France, les représentants de la triade formalisme, nihilisme, solipsisme occupent des positions idéologiquement dominantes. Pour eux, la relation au monde, c'est ce dont il est question ici, Pour eux, la relation au monde n'est qu'un leurre. Todorov, dans La littérature en péril, paru en 2007. Et finalement, et globalement, Jean-Marie Schaeffer lui-même, dans sa petite écologie des études littéraires, je cite, « Mon hypothèse est que la supposée crise de la littérature couvre une crise, cache, une crise bien réelle, celle de notre représentation savante de la littérature, le terme est ici mis entre guillemets. Bref, si crise il y a, c'est d'une crise des études littéraires qu'il s'agit. De là, ma double question. Les SHS peuvent-elles encore contribuer à réanimer ce qu'on appelait traditionnellement les études littéraires? D'une part, et autre question, le concept de littérature est-il encore pertinent, d'une part dans une perspective de SHS, mais aussi en tant que savoir? Or, s'il est un genre, je dirais d'ailleurs plutôt s'il est une forme poétique qui, en Grèce classique, permet, me semble-t-il, d'aborder ces interrogations sur les études littéraires et sur la littérature elle-même, je place évidemment ces deux expressions entre guillemets, c'est bien la tragédie classique, la tragédie attique. D'une part, en effet, la tragédie grecque n'est pas une forme littéraire au sens moderne du terme, c'est un art des muses au sens grec du terme, paroles chantées, accompagnement musical, chorégraphie, un art, on dirait désormais, multimédial. D'autre part, autant par son contenu, différents épisodes du passé héroïque des cités grecques, que par sa forme, dramatisation ritualisée dans un contexte cultuel, qui permet d'ailleurs d'interroger ce passé héroïque et de le confronter, je vais y revenir, au présent, la tragédie est une forme de connaissance, c'est une forme de savoir, et dans cette mesure, je crois qu'elle peut s'inscrire dans la thématique de cette session, art et connaissance. En effet, par sa performance musicale, par sa performance ritualisée, en tant que processus esthétique aussi, la tragédie attique est un vecteur, j'avais écrit vecteur, mais je pourrais dire maintenant véhicule, de savoir, et son public est invité à le partager et à le partager de manière active. Sa pragmatique l'inscrit dans une mémoire culturelle, pour reprendre les concepts développés par, mais pour les combiner, alors que Jan Assmann en fait une dichotomie, une mémoire culturelle qui est donc partagée entre Bindungsgedächtnis et Bildungsgedächtnis, c'est-à-dire donc entre mémoire rituelle d'un côté et puis mémoire formative de l'autre. On a naturellement la combinaison de ces deux formes de mémoire qui ne sont évidemment là qu'en tant que concept opératoire. Une pragmatique donc qu'il inscrit dans une mémoire culturelle que par ailleurs elle questionne, qu'elle réoriente, qu'elle réactive chaque année au grand de Dionysie. Et dans cette mesure, cette approche de la tragédie grecque comme poésie, comme forme poétique, permet en retour, me semble-t-il, de jeter un regard critique sur la notion moderne de littérature, peut-être aussi sur sa désaffection. En tout cas, dans cette mesure, par l'intermédiaire d'une anthropologie historique et d'une anthropologie historique naturellement critique, les sciences humaines et sociales, d'une certaine manière, devraient y trouver leur compte, et par le biais de l'anthropologie, l'étude de la littérature s'inscrit à l'évidence dans les pratiques des SHS en général et dans cette mesure de l'EHESS. Ceci dit, naturellement, en guise d'introduction, dans la mouvance de l'esthétique du romantisme allemand, la philosophie idéaliste s'est appropriée la tragédie grecque pour fonder des théories du tragique. Le double résultat en serait, nous dit Pierre Judé de Lacombe dans l'essai qui a été cité au début de la matinée, le résultat, ce serait d'une part une ontologie positive conduisant par la catastrophe tragique à l'absolu de l'homme dans sa conscience et dans sa liberté. D'autre part, une ontologie négative quant à un être dont le caractère fondamentalement indéterminable échappe au langage. Historicisé, donc, la leçon des théories idéalistes du tragique pourrait en quelque sorte être retenue, tout en étant naturellement fortement nuancée, en mettant en scène des hommes divins souffrants et des dieux par trop humains. La tragédie attique, en tant que genre, se référerait donc à une théologie minimale fondée sur les effets du temps. Dans cette nouvelle théorie du tragique, le chœur, les parties chorales, ne font l'objet que de quelques mentions, de mentions très ponctuelles, qui sont d'ailleurs en général déterminées par l'esthétique dramatique de Schelling. Dans cette perspective, donc, la tragédie revient finalement à la construction, dynamique dans le temps d'individualité, ce qu'on ne peut naturellement pas contester. Or, des approches plus philosophiques de la tragédie grecque, me semble-t-il, font oublier que les héros tragiques sont non seulement des êtres de fiction et de fiction poétique, mais ce sont aussi des êtres de langage et des êtres de création langagère, c'est-à-dire donc des êtres de poétique. Et ces différentes conceptions qui s'inspirent encore du modèle romantique mettent en parenthèse le fait que, comme Aristote d'ailleurs, on pourra y revenir éventuellement dans la discussion, le fait que les tragédies grecques, les tragédies classiques, les tragédies de l'Athènes, la deuxième partie du 5e siècle, correspondent à des formes poétiques, je l'ai déjà dit, qui sont destinées non seulement à des performances musicales, au sens grec large du terme, mais aussi à des performances ritualisées, insérées dans le culte à une divinité, en régime polythéiste, cela va sans dire, en général, pour le cas d'Athènes, c'est évidemment Dionysos. Or, non seulement la tragédie athénienne du 5e siècle, loin de constituer un genre littéraire fondé sur des textes, est une forme poétique, et une forme poétique qui s'inscrit, je l'ajoute et j'y insiste, dans l'ordre du mélos, c'est-à-dire dans l'ordre de ce que nous appelons la poésie lyrique, les poèmes de Sappho, de Pindare, d'Alcman aussi, avec des énoncés performatifs qui font correspondre ces énoncés poétiques à des actes de chant, et dans la mesure où ils s'insèrent dans une cérémonie rituelle, également à des actes de culte. Mais, et ça c'est le point qui m'importe de relever, la performance musicale de la tragédie attique correspond à un spectacle rituel, et à un spectacle rituel qui constitue lui aussi, en fait, un acte de culte. L'implication rituelle des protagonistes de l'action dramatisée, aussi bien que celle du poète et des spectateurs, s'opèrent essentiellement par le biais des chants collectifs, des chants du cœur. Florence Dupont, dans un essai sur la tragédie, a parlé d'insignifiance tragique. Insignifiance tragique, peut-être, du point de vue de l'action tragique telle que la conçoit Aristote, sur le plan purement narratif. Mais, à n'en point douter, signifiance et signifiance chorale, signifiance musicale, pour une tragédie, et une tragédie attique évidemment, qui est ancrée, dans les formes de la poésie musicale, rituelle, pragmatique, qu'est la poésie mélique, et dont la performance à la fois poétique et musicale est finalement un acte religieux. Et ceci, c'est tout à fait essentiel à mes yeux, et c'est le ces parties chorales qui opèrent cette relation dans un va-et-vient constant entre l'action héroïque qui est représentée, qui est dramatisée sur la scène, à vrai dire c'est devant la scène, en relation avec l'orchestra et avec le groupe choral. Donc d'une part cette action héroïque dramatisée, et puis cet espace-temps ritualisé qui est celui du poète et surtout celui de son public. Influence de l'école anthropologique de Cambridge ou pas, c'est du côté anglo-saxon, à vrai dire, que l'on a été sensible à tout ce que la tragédie, comme performance musicale, partage avec le rituel. Et dans une perspective anthropologique, le rituel pourra être entendu ici de manière naturellement entièrement opératoire, donc de manière tout à fait instrumentale, comme une action singulière, mais plus généralement collective, culturellement organisée par des règles implicites, réitérée selon ces règles normatives et implicites. Et c'est une action qui engage le corps, par une gestualité, par une vocalité aussi d'ordre esthétique et évidemment affectif. Elle est donc douée d'une temporalité, d'une spatialité, d'une logique aussi spécifique, et cette action rituelle se déroule aussi dans un espace dédié avec une signification d'ordre symbolique, avec une pragmatique à portée sociale, religieuse et culturelle. Ça, c'est tout à fait évident. Le rite, donc, comme pratique réglée, récurrente, sociale, institutionnelle, symbolique, du corps et de la voix. Et c'est là qu'on en revient naturellement à la tragédie et à la tragédie comme performance et comme performance essentiellement chorale. Dans le cas particulier, j'ajouterai encore de manière générale, que dans le cas particulier des cultures polythéistes des cités grecques classiques, l'action rituelle assume souvent une dimension cultuelle, et par cet intermédiaire, une fonction religieuse, symbolique et pragmatique directe, tout à fait directe, c'est-à-dire que par l'offrande ritualisée, par l'offrande sacrificielle, par l'offrande verbale que constituent les différentes formes poétiques que sont l'hymne, le péan, le dithyrambe lui aussi, on cherche à obtenir d'une divinité ou d'une figure héroïque une intervention, et une intervention hic et nunc, selon les exigences propres à la société, à la culture civiques concernées, ces cultures civiques qui changent beaucoup en raison de la configuration d'un polythéisme ou d'un panthéon plutôt très différent qui varie beaucoup d'une cité à l'autre. Dans une séquence qui enchaîne volontiers les formes de la procession, de l'offrande sacrificielle, du concours athlétique, la parole rituelle, la parole poétique ritualisée, notamment dans la dramatisation chorale, chantée et dansée, tient une place symbolique et une fonction pragmatique centrale. Et c'est en particulier dans la performance chorale, comme chant efficace, que s'opère l'articulation entre ce que nous appelons le mythe, c'est-à-dire donc ces récits héroïques qui ont souvent une valeur fondatrice, et puis le rituel lui-même dans sa gestualité musicale, dans sa gestualité à la fois vocale et musicale, et j'insiste aussi sur ce point, ceci par l'intermédiaire du travail et de ce travail poétique de ces figures que les Grecs eux-mêmes appelaient des poietai, ces poietai qui sont donc entendus d'une part comme des créateurs, mais aussi, c'est le cas des poètes tragiques, en tout cas chez Aristophane, comme des chorodidaskaloi, c'est-à-dire des metteurs en scène, mais des metteurs en scène qui concentrent leur attention sur le cœur, essentiellement sur le cœur, et apparemment moins sur les parties récitées. Alors, j'ai évidemment pas le temps de le faire, mais je voulais prendre un exemple, et l'exemple de Lion d'Euripide et de Lion de l'Euripide, parce que son intrigue n'est pas celle du renversement tragique habituel. Et j'aurais montré que le Lion d'Euripide, dans ses parties chorales, intègre quatre formes, et quatre formes d'hymnes différentes, dont un hymne qui est une invocation à Athéna, à Artémis d'ailleurs aussi, appelé à intervenir pour résoudre le nœud de l'intrigue sur la scène, et de fait, à la fin de la tragédie, Athéna, en tant que Dea ex machina, intervient pour la reconnaissance de Dion et pour donner une descendance et à Créuse et à son époux Xoutos. Et ce que j'aurais montré à la faveur de la description d'au moins de ces chants hymniques, c'est que le chant qui assume la forme de l'hymne a un effet sur le déroulement de l'intrigue, sur l'action héroïque dramatisée, puisqu'il aboutit finalement à l'intervention réelle d'Athéna dans l'espace et dans le lieu de l'action héroïque. Mais il est doublé, cet appel est doublé d'une référence évidemment à l'Athéna Polias, déesse tutélaire de la cité, que vénèrent les spectateurs eux-mêmes, sans parler du poète lui-même. Je conclue avec peut-être une comparaison qui est une comparaison qui ne s'inscrit pas dans la méthode que je prône, qui doit être une comparaison différentielle, mais ici purement analogique, mais ça m'aidera, j'espère, à définir ces aspects musicaux de la tragédie grecque. Qui a prétendu donc que les chants choraux des tragédies d'Euripide ne représenteraient rien de plus que des intermèdes musicaux? De fait, qu'ils soient monodiques ou choraux, les chants médiques, notamment des tragédies d'Euripide, reprennent des formes culturelles et poétiques traditionnelles. La tragédie les réoriente du point de vue formel et du point de vue pragmatique, d'une part sur l'action héroïque représentée sur la scène, mais elle peut aussi les soumettre, occasionnellement en tout cas, à l'acte cultuel que constitue la performance tragique elle-même. Du rituel dans la tragédie, on est donc renvoyé à la tragédie elle-même comme rituel. On est donc bien éloigné d'une littérature qui serait simplement une littérature lue, d'une littérature au sens moderne du terme, bien éloigné aussi de la fiction entendue comme feintise ludique. Est-ce à dire, pour conclure, que la tragédie attique peut être considérée comme une sorte d'oratorio? Ce qui a été la proposition faite par Nicole Laureau, sans qu'elle ait poursuivi l'analogie. À l'invitation de Nietzsche, la comparaison peut s'imposer avec les formes chantées de la musique allemande moderne. Non pas, dirais-je, dans le sens métaphysique de l'auteur de La naissance de la tragédie, qui suit Schopenhauer d'une part, qui suit éventuellement Richard Wagner, en nous présentant la musique comme, et la tragédie comme l'être métaphysique de toute la réalité physique du monde, qui nous dit aussi que la musique est offerte en tant que, je cite encore une fois, être en soi de tous les phénomènes, et qui, dans cette mesure, dit de la tragédie, et de la tragédie grecque naturellement, en tant qu'art dionysiaque, qu'elle trône dans une extase sublime au sein de cette profusion de vie, de douleur et de plaisir. Dans une perspective, donc, non pas de philosophie, mais d'ethnopoétique, d'anthropologie historique, plutôt que les grands opéras wagnériens, ce sont, me semble-t-il, les oratorios de Bach, qui pourraient fournir un terme de comparaison, ici, évidemment, pour le moment, une comparaison très superficielle, entièrement analogique, pour illustrer dans la performance d'enseignement musical certains des enjeux de la tragédie chorale grecque. Je pense ici à l'oratorio de Noël, l'oratorio de Pâques et l'oratorio de l'Ascension, puisque tous trois mettent en scène les épisodes cardinaux du mythe héroïque fondateur de la chrétienté. Naissance de Jésus de Nazareth, mort sur la croix, résurrection, ascension, etc. Je prends l'exemple très rapidement de l'oratorio de Pâques. Si à la danse s'est substituée dans l'oratorio une partition orchestrale très élaborée, beaucoup plus élaborée que ne l'était instrumentalement et musicalement l'accompagnement musical des parties chorales en Grèce. Et quand je dis partie chorale, les protagonistes de l'action chantent à leur tour. L'événement de Pâques y est mis en scène vocalement par quelques-uns de ses protagonistes, Marie Jacobée, Marie-Madeleine, Pierre et Jean. Respectivement soprano, alto, ténor et basse, ils sont les narrateurs émus d'un récit qui, de la mort à signification sacrificielle à la résurrection, est fondée sur une évidente métabasis, puisque la métabasis est, selon Aristote, au centre de la tragédie, ou en tout cas de l'intrigue tragique. Polyphonique, la dramatisation est entièrement musicale, entrecoupée de très brefs récitatifs. Les interventions chantées, souvent à plusieurs voix, sont partagées entre narration du passé, action elle-même et commentaire. Et commentaires dans l'émotion, la déploration, et ensuite, évidemment, au terme de l'oratorio, la joie au moment de la résurrection. Et il revient au chœur, qui est un chœur mixte dans le cas particulier, non seulement d'introduire l'oratorio par un appel sonore aux protagonistes et aux protagonistes et au public à rejoindre le tombeau du Christ, tout en annonçant naturellement la résurrection du Sauveur. Hein, là, on passe aussi du niveau du mythe au niveau du rituel, pour faire bref. Mais c'est aussi le chœur qui conclut l'oratorio par un choral accompagné des sons éclatants des instruments avant. Chant d'éloge, reconnaissant, offrande musicale, une sorte d'offrande musicale au Seigneur qui a permis de vaincre enfer et diable. Peut-on mieux chanter et célébrer, pour conclure, collectivement et rituellement, en incluant le public, l'héroïsation et l'apothéose d'un héros fondateur? Et surtout, est-il possible de mieux apprécier le rôle joué par la forme musicale en performance, mais aussi par la créativité poétique, pour rendre actif, pour rendre en quelque sorte efficace, la question évidemment de la pragmatique, un mythe, une fiction narrative, s'il en est. Et ce mythe, en somme, est beaucoup moins élaboré que les récits héroïques recréés et musicalement dramatisés par les poètes tragiques grecs. Après tout, poète, Eschyle est dit par Aristophane lui-même, maître de chœur à Athènes, et compositeur, Bach est le maître de chapelle à Köthen, puis le cantor à la Thomasschule de Leipzig. On ajoutera que les trois oratorios mentionnés, de même que les cantates et les passions, sont en général chantés dans un sanctuaire, en particulier chez les protestants. performance musicale totale à l'occasion de la célébration des trois fêtes chrétiennes, encore solidement inscrites dans le calendrier, enfin dans notre propre calendrier. Au-delà de différences par ailleurs manifestes, au-delà de toute essence tragique, la force passionnelle, la force pragmatique de la tragédie grecque en performance chantée ne réside-t-elle pas aussi, finalement, dans une poétique musicale? Quoi qu'il en soit, l'action héroïque dramatisée et chantée s'inscrit par la performance rituelle insérée dans une célébration cultuelle. Le théâtre lui-même, en tout cas à Athènes, s'inscrit dans le sanctuaire d'Apollon, dans une mémoire culturelle dynamique, constamment réorientée, réanimée par de grands poètes. Par l'intermédiaire d'une approche de sciences humaines, la tragédie grecque, non pas comme littérature, mais comme connaissance d'ordre politique, moral, religieux, d'ordre critique d'ailleurs aussi, mais ceci, j'insiste encore une fois, par et dans l'accompagnement musical. Cognition donc, peut-être, mais par la performance musicale, rythmée et ritualisée. Poésie grecque, peut-être, je reprends l'idée développée par Antoine Lilti, en tant que savoir de la société. Merci.
Merci Claude Calam pour ce plaidoyer pour une anthropologie multimédia. Nous avons un dilemme là, puisque nous sommes censés reprendre dans un quart d'heure et nous n'avons pas déjeuné. Je propose qu'on réduise la discussion à minima et qu'on la poursuive autour du déjeuner. Est-ce qu'il y a une ou deux questions immédiatement à Claude Calam? Mais j'aurais eu peut-être, juste pour amorcer une discussion qui, à mon avis, pourrait prendre tout un séminaire, mais entre vos deux communications, il y a évidemment la question du langage corporel qui est introduit par Claude Calam et qui pose la question du rapport entre le langage corporel et le langage mental dont parlait Jérôme tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut, en 30 secondes, dire quelque chose là-dessus. Sauf si vous voulez réagir...
Évidemment, dans le cas de la tragédie grecque, dans le cas de évidemment pour toutes les formes de poésie grecque, poèmes aédiques inclus et poèmes homériques inclus, la participation corporelle, la participation physique nous est sensible uniquement par la métrique. Hein. C'est quand même un élément extrêmement important qui permet non seulement de donner un rythme à la parole et à la parole chantée, mais qui permet de s'imaginer la participation du corps à ce qu'on appelle, je reprends quand même bon an mal an le concept anglo-saxon, le concept américain en fait, le concept états-unien de performance.